Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous commençons par prier et par remercier Dieu. Dieu saint et juste, cher Père céleste, nous voulons te remercier ce matin, ce beau matin d'été, pour tous tes bons dons, tous ceux avec lesquels tu bénis notre vie. Nous te remercions pour la santé, nous te remercions pour avoir pu venir ici à la réunion d'été. Encore une fois, tu nous as accordé un nouveau jour et une occasion de nous réunir autour de ta parole. Nous t'en remercions. Nous te remercions pour ton royaume et pour son trésor le plus précieux, qui est l'évangile du pardon des péchés, dont nous avons eu la part par la foi. Maintenant que nous passons à étudier ta parole, nous prions la présence de ton Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, pour qu'il conduise nos paroles et nos pensées, pour que ta parole puisse nous clarifier ta volonté. Toi, Père, tu nous connais tous. Tu connais nos besoins, tu connais nos sentiments. Tu peux et tu veux nous donner ce dont nous avons besoin. Tu vois aussi la pauvreté de ton serviteur. Tu peux et tu as promis de nourrir et de rafraîchir tes enfants par l'intermédiaire de ce genre de serviteur. Nous voulons avoir confiance en tes promesses et à nous contenter à ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous prions donc que tu bénisses notre réunion avec la prière que ton Fils lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme sujet de mon sermon, je vais lire la parole de Dieu des Actes des Apôtres, son 8e chapitre, verset 26 jusqu'au verset 39, donc jusqu'à la fin du chapitre. Au nom de Jésus. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Tu vas partir en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Et sur son chemin, un homme apparut. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Avance et tiens-toi près de ce char. » Philippe s'en approcha en courant, et entendit l'Éthiopien qui lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter sur le char et s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur terre? Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Philippe prit alors la parole et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau et le fonctionnaire dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe et le fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Amen. Ce passage de texte que je viens de lire est l'un des plusieurs histoires de la Bible où on nous conduit comme en nous tenant la main. On nous conduit à connaître, à savoir comment l'on peut trouver le royaume de Dieu et devenir enfant de Dieu. Dieu, il a voulu laisser dans sa parole ce genre de conseil, même détaillé, pour ainsi il a voulu nous s'occuper de nous. Souvent, quand je lis ce texte, je me dis dès le début que ce texte, il décrit bien combien Dieu connaît les siens, combien il sait à combien il nous connaît. Ici, on commence. Un ange du Seigneur dit à Philippe, Dieu, il savait exactement où Philippe était, où était cet homme croyant nommé Philippe, appelé Philippe. Et Dieu, il envoya un message à Philippe. Ici, on ne nous dit pas quelle sorte d'ange il s'agissait. Nous ne savons pas si c'était un ange transfiguré, qui eux aussi sont des servants de Dieu. Ou bien est-ce que la Bible ou bien si c'était en fait un autre croyant, un homme que la Bible appelle ange. Mais cela n'a pas d'importance pas de très grande importance pour ce texte. Ce qui importe, c'est que Dieu envoya un message à Philippe. Tu vas partir en direction du sud. Donc, il envoya Philippe à un certain lieu, à un certain endroit. En même temps, notre texte nous dit que Dieu, il sait exactement où sont les hommes qui ont besoin d'entendre le message du royaume de Dieu. Dieu, il savait exactement les coordonnées il connaissait le lieu où se trouvait cet homme éthiopien. Et c'est chez lui que Dieu envoya Philippe. Je dirais que il y a sans doute beaucoup d'autres avec moi qui se demandent souvent si Dieu pense à moi, si Dieu s'intéresse à moi et à ma situation. Nous nous demandons si Dieu a envie de connaître ma situation. Les textes que nous venons de lire nous renforcent la confiance en ce que Dieu, il connaît notre situation, il connaît les phases de notre vie. N'est-il pas soulageant de penser que en fait Dieu il nous connaît mieux que nous-mêmes? Nous ne connaissons pas le nombre de nos cheveux, et pourtant dans la Bible on dit que Dieu il connaît le nombre de nos cheveux et il sait où il y a un poil qui va tomber. Que cela puisse nous rassurer. Nous sommes bien soignés par Dieu. Ce haut fonctionnaire éthiopien dont parle notre texte, on dit de lui qu'il était qu'il retournait chez lui de Jérusalem où il était allé pour prier Dieu, pour adorer Dieu. Sans doute avait-il voulu prier Dieu pour vérifier que Dieu l'entende, et c'est pourquoi il avait fait ce long voyage jusqu'à Jérusalem, jusqu'au lieu saint de Jérusalem, pour être entendu par Dieu. Et maintenant, il est de retour chez lui et il lit les Écritures saintes. Et je dirais que on peut voir ici que plus ou moins cet Éthiopien est déçu au moment où il est de retour de son voyage. Il n'a peut-être pas reçu ce qu'il a espéré de recevoir, ce qu'il a voulu avoir avec son voyage. Il a sans doute espéré avoir avoir une sorte d'assurance de ce que Dieu l'a exhorté, que Dieu a entendu ses prières. Mais là, notre texte, en fait, il nous dit que Dieu, il a entendu ses prières. Et ici, il répond à cet Éthiopien. Dieu, il veut que nous, les hommes, nous le prions. Dans beaucoup dans la Bible, on nous dit souvent, on nous conseille de prier et on nous assure que Dieu, il entend nos prières et il nous répond. Il répond à nos prières, mais souvent, c'est avec ses propres horaires qu'il nous répond et avec sa propre manière. Et la réponse de Dieu n'est pas toujours exactement ce que nous, les hommes, nous attendons et espérons et souhaitons. En même temps, notre texte nous explique que nous pouvons bien nous approcher de Dieu avec la prière et nous pouvons être sûrs que Dieu nous entend. Mais ce n'est pas par la prière qu'on devient enfant de Dieu, qu'on entre dans le royaume de Dieu. La réponse de Dieu à ce passager, c'est qu'il envoie Philippe chez lui pour lui transmettre le message du ciel. L'Esprit, le Saint-Esprit conduit Philippe sur le chemin de cet homme. Et Philippe, il voit un homme ou un char, un très beau char. Il s'agissait vraiment d'un non-fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Et Philippe, il est ordonné de s'approcher de ce char. Et Philippe, il entend l'homme lire en haute voix le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ce comportement de Philippe, il nous parle. Ici, on nous conseille de, au moment où Dieu a envie de nous employer dans son travail. Ici, on nous dit que nous n'avons pas besoin d'être trop humble. Nous devrions être humbles à cette invitation. Nous ne devrions pas trop hésiter. Ici, on demande à Philippe d'aller sur la route de Gaza. Et quand Philippe, il reçoit cet ordre, il part. Il y obéit. Et de la même manière, quand Dieu lui dit de s'approcher à ce char, Philippe, il n'hésite pas, il n'a pas trop de respect pour cet homme. Mais Philippe, il a le courage d'y aller et de se mettre à parler avec cet homme lisant la Bible. La réponse de l'homme éthiopien nous révèle que Dieu a déjà travaillé sur son cœur. Pendant son voyage à Jérusalem, il a sans doute compris que ce n'est pas possible, il n'est pas possible pour lui-même de comprendre les Écritures du prophète. Et c'est pourquoi il demande à Philippe de lui expliquer de qui prophète parle dans le passage de texte qu'il est en train de lire. Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et ainsi, Philippe a une question précise à laquelle il doit répondre. Et Philippe, il ouvre sa bouche et commence à prêcher l'Évangile à la base de cette écriture. Ici, on nous ouvre plusieurs perspectives que je vais commenter avec quelques pensées, si Dieu le permet. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'on peut se réconcilier avec Dieu à deux par la prière et trouver ainsi la communion avec Dieu. Une communion qui soit suffisante, mais aussi de la part de Dieu. Cette histoire de la Bible que nous venons de dire, il nous démontre que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'autres histoires dans la Bible qui témoignent de la même chose. Nous nous rappelons de Corneille, dont on nous raconte dans la Bible qu'il priait. Et Paul aussi, quand il était encore appelé Saul, quand il avait déjà été approché par Dieu, il était tombé aveugle. Et il priait sans cesse. Lui aussi, ses prières, aussi bien que celles de Corneille, ils furent entendus par Dieu. Et Dieu leur répondit en envoyant un messager de son royaume chez lui pour leur proclamer l'évangile, déclarer l'évangile ou prêcher l'évangile. Jésus, quand il vivait sur la terre parmi les gens, son enseignement et son prêche, le noyau de son enseignement, c'était que le royaume s'est approché. Répentez-vous et croyez l'Évangile. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui pensent et qui enseignent même que le royaume de Dieu n'est pas nécessaire. Pardon. Pourquoi a-t-on besoin de l'Église de Dieu? C'est le Christ qui est le plus important. C'est le Christ qui est l'objet de la foi. Et cela est vrai. L'objet de la foi, c'est le Christ. Mais Jésus lui-même, il considérait comme très important le fait de trouver le royaume de Dieu. Dans son sermon sur la montagne, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et après cela, toutes les choses temporelles vous seront données. » Et cela était aussi une découverte du réformateur Martin Luther quand il constate que si tu as envie de trouver le Christ, il faut que tu trouves d'abord les croyants et le royaume de Dieu par lequel Dieu déclare le bon message de ce que tout a été préparé, tout a été fait et on peut le recevoir par là, on peut recevoir tout ça par la foi. C'est de cette chose que l'histoire que nous venons de lire nous parle et nous souligne. Il souligne l'importance d'avoir une connexion avec les enfants de Dieu qui croient déjà. Les enfants de Dieu qui ont la mission de prêcher l'évangile du Christ dont on a déjà parlé beaucoup de fois pendant cette réunion. Paul, au début de sa lettre aux Romains, il constate qu'il n'a pas honte de l'évangile du Christ car c'est la puissance de Dieu pour la justice de tous les croyants. Et la justice qui est acceptable devant Dieu, cette justice est annoncée de la foi à la foi. On ne peut pas la rejoindre avec son propre aide, mais c'est toujours du travail du Saint-Esprit qui est annoncé à partir d'un homme croyant, de la foi à la foi. Dans le sermon de Jésus sur la montagne, il disait « Repentez-vous ». Au sujet de la repentance, il y a beaucoup de gens de nos jours qui pensent qu'il est bien suffisant de faire la décision d'aspirer à une vie un peu meilleure, améliorer un peu sa vie et d'éviter les choses qui ne nous semblent pas très bonnes. Mais pourtant, la repentance, ça veut dire une conversion, un changement d'esprit. J'ai entendu dire que Jésus, au moment où il employait le mot « repentance », c'était un mot qui, à son époque, était employé par les bergers de son époque. Il employait ce mot pour dire à leurs moutons « revenez chez moi ». Il s'agit donc d'un changement de direction complet et non pas juste une petite retouche de la manière de mode de vie. Et c'est pourquoi à l'exhortation à la repentance de Jésus qu'on déclare même aujourd'hui dans le royaume de Dieu, il contient le fait de croire à l'Évangile. Ici, à cette réunion d'été, on a beaucoup parlé du sens de cet Évangile, de son contenu. Il s'agit d'une chose extrêmement importante. Nous ne pouvons même pas le comprendre complètement, tout ce que signifie tout ça, tout cela. Jean, dans son évangile, il écrit « Dieu, il a autant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle. Là, c'est une phrase concise et courte qui nous résume le fait que Dieu lui-même, en son Fils, par son Fils, il s'est réconcilié. Il a réparé la faute qui a été faite à la chute d'Adam. Et donc, nous ne pouvons pas, avec notre propre force, avec notre propre compréhension, nous approcher de Dieu. Mais Dieu, il a, à cause du Christ, à cause de son œuvre de rédemption, il a pardonné cette faute et il a pardonné tous les crimes, tous les péchés. Il s'agit d'un amour immense et d'une grâce immense. Et pourtant, dans la parole de Dieu, on dit à ce propos que Dieu, au moment où il vit que l'homme ne peut pas, avec son propre entendement, il ne peut pas croire en Dieu et venir à lui, il s'est dit qu'il vaut mieux justifier ceux qui croient à cette rédemption par un prêche simple, qui croit simplement. L'idée de Dieu, c'est que la rédemption concerne tout le monde, tous les gens du monde. Chacun, tout le monde peut avoir accès à cette rédemption, avoir la part à cette rédemption, s'il le possède par la foi. L'homme ne peut pas se réconcilier avec Dieu tout seul. Mais le Dieu saint et juste, il veut que l'homme s'humilie et qu'il accepte de recevoir la grâce par la foi, par la déclaration du royaume de Dieu. On a le droit de croire que tous nos péchés sont pardonnés au nom et au sang de Jésus. Il a préparé une rédemption parfaite et nous pouvons le posséder pour nous-mêmes. C'est donc une chose simple que l'évangile du royaume de Dieu. C'est triste de voir qu'il y a beaucoup de gens qui, avec leur propre logique, avec leur propre intelligence, arrivent à la conclusion que oui, moi, je veux être croyant, mais je crois d'une manière un peu différente. Moi, je n'ai pas besoin du royaume de Dieu pour ma foi. Je n'ai pas besoin des compagnons de voyage pour mon chemin. Et pourtant, Dieu, il a ordonné assez, il a fait assez, rendu assez clair son plan. Tout a été fait et on ne peut rien y ajouter, mais on peut le posséder par la foi. Cet évangile du royaume de Dieu est maintenant annoncé par Philippe à ce fonctionnaire éthiopien. Et Dieu, il aide cet Éthiopien à le croire. Nous pouvons suivre leur voyage et nous pouvons voir que la flamme de la foi brûlait dans le cœur de cet Éthiopien lorsqu'il a écouté les mots de Philippe. Et puis, quand ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau, ce fonctionnaire, il dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » C'est assez clair que la relation entre le baptême et la foi que la Bible nous décrit ici. D'après ce passage, l'homme doit être baptisé quand il est déjà croyant. Et cela est lié à l'alliance de bonne conscience qui est très ferme de la part de Dieu. Elle donne à l'homme toujours la possibilité de revenir à Dieu par la repentance, si le péché a pris l'homme comme prisonnier, fait égarer l'homme de Dieu. Voilà l'évangile simple du royaume de Dieu qui est déclaré même à cette réunion d'été à Porée. Et le noyau de cet évangile, c'est une déclaration personnelle du pardon des péchés. Toi, cher auditeur, ce matin, tu as le droit de croire à cette rédemption, cette réconciliation qui a été préparée et faite complètement pour toi aussi. Lève ton cœur à croire que tous tes péchés sont pardonnés. Et par cette foi, tu peux posséder la justice qui est acceptable à Dieu. C'est un don extraordinaire. Je pense surtout à vous, chers compagnons de voyage, qui, d'une manière ou d'autre, qui, pour une raison ou autre, n'avaient pas eu la possibilité de venir ici à la grande réunion d'été. Le Père Céleste pense à vous aussi. Il veut vous transmettre son message. Il connaît exactement, il sait exactement où vous vous trouvez et il veut vous saluer en vous disant « Sois en assurance, crois que tous tes péchés sont pardonnés au nom et au sang de Jésus. Sois joyeux et un cœur joyeux et la part de l'enfant de Dieu. Ainsi, pouvons-nous tous, chacun, être consolés par l'Évangile et commencer un nouveau jour de réunion. Au nom de Jésus, Amen. Et moi aussi, je veux demander pour mon propre cœur, est-ce que j'ai le droit de croire que mes péchés sont pardonnés? J'ai envie de croire ensemble avec le royaume de Dieu.